Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 194. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, ça fait un beau petit mois qu'on n'a pas enregistré parce que, notamment, Pascal, tu es en plein tournage.
Ouais. Fait que là, c'est la petite voix fatiguée, c'est un peu ça, là. Pas plus tard qu'hier, on était en tournage. Mais ouais, c'est ça, c'est pour le film. Ceux qui suivent le podcast peut-être le savent, là. Je tourne un long métrage qui s'appelle NASA Butterfly cet été. Et là, en fait, on faisait les deux premières journées du tournage hier et avant-hier, qui était un peu un aparté du reste du shoot, parce que hier et avant-hier, ce qu'on a fait, toutes les séquences... le film a comme un peu un prologue, là, parce que le film se passe en quasi-totalité à Tokyo, mais il y a un prologue à Montréal, donc on a tourné ça. Puis on a tourné aussi toutes les séquences un peu de rêve, là, des scènes sous l'eau, des trucs funky, des trucs artsy. On a mis vraiment en valeur les nageuses, hein, parce que c'est un film qui traite de retraite sportive, puis met en vedette de vraies ex-olympiennes médaillées et tout, donc des nageuses professionnelles. Puis ça a été vraiment un beau tournage, un beau deux jours. On a une équipe de fous. Puis j'ai fait... Mon Dieu, c'est la première fois que je fais du cinéma comme en guillemets plus visuel. Fait que là, c'était bien excitant là, de faire du beau, puis du léché, puis oh my god. Fait que on s'est vraiment gâtés et c'est parce que le scoop, qu'on fait une sortie publique cette semaine, mais pour les gens qui suivent le podcast, ben, vous avez un scoop avant tout le monde. Mais c'est ça, cette semaine, on fait l'annonce du casting principal, puis on fait le film notamment avec une médaillée des Jeux de Rio qui s'appelle Catherine Savard. Puis là, c'est ça, on fait un peu un genre de dévoilement de « Ah, on a fait le premier bloc de tournage, puis c'est un peu ça le film. » Puis fait qu'une genre de sortie médiatique cette semaine, probablement autour de mercredi ou jeudi. Puis c'est que là, pourquoi on est en deux blocs? C'est que, en trois blocs en fait, c'est qu'on a tourné quelques jours, puis là, on tourne au retour de Catherine Savard des Jeux panaméricains parce qu'elle s'est classée aux Jeux panaméricains. Mmh. Fait que ça a forcé, ouais, c'est vraiment cool.
Ça mais a tout foutu le chiard pour vous autres, là.
Ben, un petit peu, en fait, parce qu'on pensait pas... Moi, honnêtement, je pensais pas qu'elle se qualifiait. Désolé, Catherine. Non, mais en tout cas, longue histoire, mais parce qu'elle ouais, était blessée en début de saison et tout, mais pour X raisons, bon, ça faut jamais sous-estimer une médaille olympique, c'est ça la morale de cette histoire. Et, mais c'est ça, fait qu'il a fallu qu'on reporte le tournage de deux semaines, mais finalement, de façon miraculeuse, on n'a perdu aucun chef de département parce que ça aurait pu être le bordel. Hein, t'sais, on dit, ah, c'est juste deux semaines.
Tu reformates l'équipe, là.
Mais c'est ça, t'sais, c'est que si, oui, si tu perds ta directrice photo, puis tu perds, je sais pas, ton assistant réel parce que tu reportes de deux semaines, ben, c'est le bordel. T'sais. Puis comme je disais, miraculeusement, ça n'a pas trop ébranlé la configuration de notre équipe clé, là. Fait que ça, c'était génial. Et on reprend, donc là, ça, c'est fait et on reprend à la mi-août. Fait que ouais, de mi-août à début septembre, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de podcast, ou du moins, il y aura peut-être un podcast sans votre humble serviteur ici présent, parce que je vais être en shoot, voilà, fait que NASA Butterfly, ça s'en vient, puis checker les news cette semaine.
Puis j'ai fait un petit lien assez cocasse aujourd'hui, je trouvais, parce que bon, ton film, le titre, ou du moins le titre de travail, c'est NASA Butterfly, et
ouais.
Ça se passe aux Olympiques et tout ça, et on vise une sortie, ou du moins... Il y avoir un lien avec les Jeux de Tokyo.
Oui,
les Olympiques de Tokyo. Et un autre cinéaste qui prépare un film pour une sortie à Tokyo, c'est Miyazaki. Son nouveau film d'animation, que ça fait, ça fait... Depuis toute sa carrière, en fait, il en a parlé, qu'il voulait faire ce film-là. L'histoire d'une chenille qui passe d'un arbre à l'autre. Mm-hmm. Et c'est comme un peu ça, le film, mais du point de vue de la chenille, fait que ça devient super épique. Mm-hmm. Donc, entre chenille et papillon, je pense qu'il va y avoir un beau double feature à sa
écoute.
Donc, voilà.
Ben oui, grosse
journée de nouvelles aujourd'hui. En fait, je m'attendais plus à ce qu'on passe la totalité du podcast sur Fantasia, mais il y a quand même des trucs qu'il faut aborder vite fait, là, juste pour dire. Notamment, c'est on approche de la fin de la décennie. Et qui dit décennie, Pascal, dit liste de fin d'année et de fin de décennie et best-of des meilleurs films de tout ce qui a marqué la décennie, ce qu'on va retenir. C'est un exercice intellectuel assez trivial, mais quand même amusant et fascinant pour les cinéphiles. Là. Ouais. Et on est juste en juillet, mais déjà IndieWire lance le bal et lance son top 100 aujourd'hui même, le lundi 22 juillet à l'heure où on enregistre, de son top 100. Et c'est aussi dans le cadre d'une semaine complète où le site IndieWire va faire plein de retours sur la dernière décennie. En marge de cet article-là, qui est vraiment très détaillé avec plein de liens et de suppléments,
ouais.
Il y a déjà une réaction de Barry Jenkins qui a été couronné pour le meilleur final de décennie avec
Moonlight. Ouais.
Et il y a déjà d'autres articles qui sont sortis. Donc les listes, évidemment, on n'est jamais d'accord, on aurait mis tel film ou tel film, mais ça permet aussi de découvrir des petits trucs un peu inattendus, des affaires qu'on avait peut-être oubliées, qui sont passées dans les cracks. Et il y en a plusieurs dans la liste d'IndieWire, donc ça, c'est très, très cool.
Mm-hmm.
Puis même, des fois, juste des rappels, tu sais, comme de voir encore que je suis comme « Ah, j'ai pas encore vu Amour de Michael Haneke. » moi qui est quand même un fan là, du cinéaste, c'est pas comme si j'avais rien vu de lui, là, tu sais, c'est comme...
Ouais.
C'est ça, j'ai pas vu Amour puis Happy End, là, ces deux derniers films, puis faudrait
j'ai
bien
pas
que...
vu genre Magic Mike 2, là, mettons.
Hey, ça, c'est vraiment bon.
Non, mais OK,
ouais. Je sais pas si c'est top de la décennie, là, mais c'est vraiment bon.
Non,
film,
mais
là.
Ça, là, ça a été mon plus gros quand j'ai regardé cette liste-là.
Oui,
Magic
ça,
Mike XXL.
Puis en 26e position, là.
Parce que justement, t'as comme Amour 25 puis comme Magic Mike XXL 26. T'es comme comment tu compares
pas le
1, deux films
en plus,
comme
le
ça
2, là, t'sais.
Non c'est ça c'est
mais
ça,
le 2
là.
Est vraiment nice là.
Non mais ouais ok mais genre ok à ce je ça m'a un peu surpris puis ça m'a un peu rappelé que ben oui les Magic Mike je les ai pas vus. Puis, coudonc, c'est comme la claque dans la face. Là. Je me dis, OK, j'imagine que c'est bon. Arrêtez de me le crier dans les oreilles. Je vais finir par le regarder.
Fait c'est, que... pas mal, c'est pas mal Paul Thomas Anderson qui a la palme là-dedans aussi. Là.
Ouais,
je pense que
ouais.
Il y a trois films dans le top.
Ouais.
Je pense que c'est le seul qui a trois films.
Oui, absolument. Mm-hmm. Puis, il y a quand même des films de l'année 2019 qu'on n'a peut-être pas encore vus. Tu sais, justement, il y a le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui est déjà donc dans une liste de décennies. Il y a le film de Souvenir. Il y a le film Parasite de Bong Joon-ho. Tu sais, fait qu'il y a quand même finalement des films qu'on a comme pas eu l'occasion encore de voir, mais ça fait juste là, un peu les renchérir puis les solidifier en tant que qu'incontournable cette année, tu sais. Donc donc ça aussi c'est bien excitant. Qu'est-ce qui m'a surpris mon dieu dans cette liste là? Il y a plein d'affaires qui m'ont surpris dans cette liste.
Lady Bird est haut là, ça j'étais comme quand même surpris là, dans le top là.
Ah mais moi là les gars, je ne comprends pas l'amour universel sur Inside Llewyn Davis. Puis toi, toi Rémi, là, étant un grand fan des Coen, ben Paul aussi, tu sais, et moi aussi par extension, je sais pas tout que j'aime des Coen, mais tu sais, je suis capable d'apprécier mes frères Coen quand même, mais Inside Llewyn Davis, je l'ai trouvé mou.
Moi tout, je suis d'accord
avec
Pascal.
J'ai pas compris la tendresse, parce qu'on en dit que c'est un film sensible, mais en même temps, il y a quand même les quirks, tu sais, des films des frères Coen, puis je sais pas, il y a beaucoup de références, coups de coude, Bob Dylan, si ça, mais je trouvais que c'était assez anecdotique comme film. Peut-être que quelqu'un l'a...
Ouais, je le trouve un petit peu overrated. Je suis assez d'accord avec toi, mais c'est pas un mauvais film. Ça reste un bon film, mais j'aime mieux les Coen quand ils ont un petit peu plus de mordant, disons.
Ouais.
Je me souviens d'être sorti de la séance, puis j'avais pas hâte de le revoir, mettons. Je suis content de l'avoir vu, mais pas de le revoir. Là.
Mm-hmm.
Ça a peut-être pas été la meilleure décennie des Coen, qui ont quand même une filmographie assez incroyable.
Ben oui.
Mais, tu sais, comme pour moi, si j'avais choisi le meilleur film de la décennie, pour moi, c'est Hail Caesar. Qui est loin en fait l'unanimité, mais je sais pas, moi j'avais bien aimé ça, mais je le mets pas au même niveau que, mettons, Fargo, Big Lebowski,
non,
moi
non plus, mais effectivement, si on joue au jeu de la comparaison, moi on dirait que je préfère un Hail Caesar à Inside Llewyn Davis, pour vrai, puis comme ça a l'air de sonner comme un sacrilège devant l'espèce d'amour universel que ce film-là, semble, Inside Llewyn Davis, reçoit, mais... Mais non, moi, on dirait que je m'assume. Moi, je les aime, les Coen, quand ils font juste s'amuser. Puis des fois, ces films-là, ils deviennent cultes plus tard. Tu sais, Big Lebowski n'a pas été nécessairement un film qui a été hyper bien reçu au départ. Raising Arizona est devenu un film un peu culte par la suite. C'est comme... C'est ça. Moi, je m'assume. Là. Hail Caesar, c'est effectivement, moi aussi, mon offrande des frères Coen, peut-être de la décennie favorite, hein, carrément.
Puis, si je peux me permettre aussi, Wes Anderson, je vis un peu la même chose parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amour là, pour Grand Budapest, mais
ouais.
Je trouve que c'est son film le moins chaleureux. Tu sais, c'est peut-être le mieux maîtrisé techniquement, mais je trouve que c'est celui qui m'a fait le moins sentir quelque chose. C'est plus un gros film d'aventure. Rendu là, j'aime bien mieux Isle of Dogs ou vraiment mieux Moonrise Kingdom.
Ouais,
là, tu sais, genre vraiment, vraiment mieux. Là.
Ouais.
Son seul film qui apparaît dans le top, c'est Grand Budapest. Fait que,
mais t'as nommé Moonrise Kingdom, ça c'est un grand absent pour moi. Moi qui a un petit peu. J'adore Tenenbaums, Wes Anderson, il faut lui rendre Et là, je comprends, sauf que effectivement, moi, j'ai un petit peu sorti du train là avec les derniers films, mais Moonrise Kingdom, pour moi, c'est tellement attendrissant, c'est tellement chaleureux, puis en même temps, c'est tellement unique, puis c'est tellement Wes Anderson. Moi aussi, effectivement, ça, c'était un des grands absents. Un film que je, ben moi le film que je trouve qui est juste trop loin dans la liste, c'est A Separation, mais là, on va y venir, hein, parce que ça, c'est spoiler, le film qui trône sur ma liste personnelle
Mais
de la décennie.
tu sais, pour comprendre cette liste-là aussi, il faut prendre en compte que Anywhere, c'est quoi? C'est un site web américain et basé à New York. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup de films, surtout dans les plus petits, peut-être, les dernières positions, que c'est vraiment des films comme New Yorkais. Puis même Inside Llewyn Davis, dans le fond, est-ce que y a pas une espèce de parti pris quand on est New Yorkais parce que ce film-là fait tellement comme l'éloge d'une certaine époque révolue, peut-être?
Ouais, c'est ça, le Greenwich
Et
Village.
c'est là justement où l'absence d'un Good Time, pour moi, est encore plus surprenante, tu sais, parce que
Ouais,
c'est comme
peut-être,
un des films new-yorkais par excellence, tu sais, récemment, là.
ouais.
Mais bon,
Ouais.
en même temps.
Puis c'est tout le temps aussi. Ouais, vas-y, oui.
Ah, j'allais juste dire, c'est une autre surprise là, dans le lot, là, mais The Last Jedi, là, je suis comme.
Ouais.
Dans la lignée des films qui divisent,
Ouais.
j'étais surpris de voir ça dans un top 100 là, de la décennie. Il y a comme tellement d'autres affaires qui auraient pu être dans la liste, il me semble, mais
Ouais,
c'est que
ouais.
ça reste subjectif. T'sais. Je sais pas comment c'est voté. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi le processus de.
Ben ça, c'est vraiment l'équipe rédactionnelle de IndieWire. Donc, il y a à peu près 8 rédacteurs qui sont plus comme permanents qui ont voté, puis ensuite, ils ont dû débattre un peu des positions et tout ça.
Puis peut-être juste au rayon des grands absents pour moi, ben Winter Sleep d'Honorable Mijis Island, ça c'est définitivement Ceylan. American Honey, il est pas là si je ne m'abuse, il est-tu là?
Non,
Attends un
non,
peu.
je l'ai pas vu,
Non, il
non.
est pas là.
Fait qu'American Honey, gros absent. Florida Project, gros accent, absent à mon œil. Moonrise Kingdom, je l'ai
Tangerine est là, par
nommé.
exemple, tu sais, ils ont
Tangerine est
choisi
là.
Tangerine au-delà de Florida Project, là.
Un cinéaste que je comprends son absence par la façon qu'il tourne, mais que j'aurais quand même aimé voir souligner, c'est Hong Sang-soo, qui est quand même pour moi l'un des cinéastes marquants de notre époque. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas le gros chef-d'œuvre qui met tout le monde d'accord. Il y a comme plusieurs films solides
Ouais, fait
que tout le monde aime. Donc
donc il est voué un peu diviser les gens à même sa propre œuvre là.
Denis Villeneuve est pas là aussi, ça je suis quand même surpris.
Ouais, pas de
Je
Denis
me
Villeneuve.
trompe-tu?
Non, il est pas là.
T'sais, il a quand même fait des gros films qui avaient un bon consensus critique et public.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas, là, il me semble qu'il aurait dû en avoir peut-être un dans l'eau, là. En tout cas, j'aurais été content aussi qu'il y ait un Québécois peut-être dans la
Ouais.
bunch, là, mais il me semble que Denis Villeneuve, il a fait beaucoup de films qui auraient probablement mérité une place là.
Ouais,
Mais ouais.
ou même un Jean-Marc Vallée avec un Dallas Buyers Club ou des films comme ça.
Ouais,
Tu sais, c'est
ouais.
des films qui auraient pu effectivement se glisser là-dedans. Puis il y a des surprises. Non, je veux dire, c'est le propre d'une liste. On n'est pas d'accord, on la décortique, on fait des découvertes. Puis c'est un petit peu, c'est ça le but de l'exercice. Puis moi, au début, je la regardais la liste, puis elle défile de 100 à 1. Puis là, au début, genre, je regarde numéro 100, ok, bon, c'est un film que je connais, mais là, 99, 98, 97, 96, je suis comme pas vu, pas vu, pas vu, pas vu. Là, j'ai comme paniqué un peu, je suis comme, my god, je suis tout déconnecté à ce point-là. Puis là, finalement, on dit, ça s'est comme, ça s'est replacé par la suite. Je pense qu'ils se sont gâtés un petit peu, là, en queue de liste, là. Il y a beaucoup plus de, comme des petits films, des découvertes, des trucs un peu champ gauche. Puis genre, The Great Gatsby, que j'ai pas vu. Tu sais, des fois, ça te rappelle qu'il y a des gros films qui sont passés. T'sais, entre les doigts et tout. Donc, ouais, ben, c'est IndieWire, 100 films de la décennie. What's not to like?
Et voilà. Et pour le nôtre, on va aller plus peut-être en début 2020, le temps de vraiment bien faire les choses et de rattraper tous les films.
Ouais.
Parce qu'on n'a vraiment pas le temps de voir autant de films rapidement puis d'avoir les liens à l'avance comme eux peuvent le faire. Autre grosse nouvelle ce matin, en fait, sans phare ni trompette, le FFM prend une pause cette année officiellement.
Une pause. Est-ce qu'on fait des. Derrière mon ordi, j'ai comme des guillemets là, avec mes doigts, là.
Ouais,
Une
ben.
pause.
Ouais, ça sent la fin. Serge Hozier est octogénaire avancé dans
Il a
le.
87 ans, le bonhomme, là, quand
Ouais,
même, là, tu
ouais.
sais.
Dans le communiqué de presse, on dit que son médecin l'a forcé à arrêter toute activité professionnelle, qu'il souffre de fatigue extrême, etc.
Non, ouais.
Donc, ben, on lui souhaite du repos, en fait, et on espère que tout va bien aller. Et c'est sans doute ce qui sonne le glas du Festival des films du monde. Donc, une histoire qu'on aura assisté surtout sur le déclin pour notre part, mais quand même quelque chose qui a marqué notre histoire. Et maintenant, de voir le paysage de festival de cinéma qu'il y a au Québec et à Montréal, eh bien, c'est clair que le FFM a permis quand même de défricher des choses. Donc, voilà. Autre chose que je vais aborder juste rapidement avec vous, les gars, parce que je trouvais que ça ouvrait une espèce de débat intéressant, en fait, puis de un peu une crainte par rapport au futur, parce que là, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'espèces de nouvelles technologies, puis de controverses, puis de trucs.
Hey, tu veux-tu parler du deepfake?
Ben, non, mais...
T'en vas-tu là, là?
Ben, non, mais il y a ça, mais c'est relié, c'est que... comme ça, sans tambour ni trompette, Netflix a annoncé qu'ils ont édité la scène de suicide dans 13 Reasons Why, la saison 1. Qui était une scène qui avait, selon en tout cas la série, selon plusieurs chercheurs, ouais, aurait fait augmenter le nombre de suicides auprès des jeunes aux États-Unis ouais, lors de sa diffusion
ouais,
originale
il paraît que
ça,
c'est problématique, cette série-là. Il paraît que c'est comme... C'est pas tant bien la morale de ça, là. Ça glorifie le suicide, là.
Ouais, c'est ça.
Disais, là, tu sais que c'est... Bon, l'acte c'est devient quoi, comme...
Pas...
Ouais, mais en tout cas...
Ça veut dire qu'il y a des avis pour et contre, là, évidemment. Mais là, ce qui est un peu problématique avec ça, c'est que, d'une part, on enlève la seule scène qui était explicite et qui montrait les conséquences, vraiment, de ce que c'est. C'est-à-dire que, là, maintenant, c'est comme... Il y a comme une coupe et ça reste hors champ. Ça reste le meurtre a lieu, donc le suicide a lieu, pas le meurtre, mais le suicide a lieu hors cadre. Et là, soudainement, c'est comme si certains vont dire que ça atténue un peu la conséquence et que finalement, c'est comme aller dans le sens inverse de ce qui est souhaité.
Ouais.
Fait que déjà, la coupure en tant que telle n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais en plus, c'est que tu sais, il y a plein de gens qui disent arrêtez cette série-là, puis là, ils font ça juste avant la sortie de la saison 3. Fait qu'on est encore un peu dans le. Est-ce qu'on utilise ça pour faire un coup de marketing? Et au-delà de tout ça, ce qui est déjà des super gros débats importants qu'il faut se responsabiliser,
ouais,
ça ouvre la porte aussi à l'édition et la censure digitale. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'on sait qui est possible. Puis c'est pas de hier que les distributeurs et tout ça vont censurer des films, avoir des différents montages en Amérique du Nord versus l'Europe, etc. Mm-hmm. Mais reste que là, c'est redevenu tellement facile. Et, mm-hmm, tu sais, une production Netflix, il n'y a pas de copie qui existe ailleurs. Fait que, tu sais, je me dis juste que ça ouvre une espèce de porte un peu dangereuse, une espèce de boîte de Pandore assez effrayante où Netflix peut décider à rebours de, comme, refaire les choses,
rééditer les films. Tu sais, c'est-à-dire, ils ont tellement d'intel sur la réaction des gens puis sur les commentaires un peu en temps réel que, tu sais, imaginons, exacerbons un peu ce trait-là puis pour en réaliser à quel point ça peut être dangereux. T'sais, supposons que, je sais pas, qu'ils réalisent que tout le monde semble dire qu'à la 22e minute, il y a comme une lenteur, mettons. Il y a comme une scène qui sert à rien, tu sais. Mais là, tu sais, c'est quoi? Un algorithme pourrait décider de trimer une scène pour comme relancer le pacing d'un film basé sur... T'sais, des commentaires puis l'espèce d'amas d'informations intelligentes qu'ils ont réussi à avoir. Mais tu sais, là, dès que tu ouvres la porte à ça, tu défais une œuvre qui existe dans une entièreté, tu sais. Parce que moi, c'est un cheval de bataille que j'ai, genre, même dans mon propre, humblement, là, mais dans mon propre cinéma, moi, j'arrête pas de me dire, je travaille pour la fin de mon film. Fait que s'il faut que tu passes par une scène plus longue puis un peu plus tedious, tu sais, moi, ma bible, c'est The Deer Hunter, là. Moi, là, c'est genre les gars, ils vont à la chasse pendant une heure puis c'est long puis après ça, il y a un mariage. Mais après, quand ça fait clic avec la scène de la roulette russe, t'es on edge parce que genre, c'est tes chums, là, qui ont un gun sur la tempe. Tu sais, moi, je suis que là, c'est ça qui me forme. Fait que, tu sais, est-ce que à m'amener un algorithme pourrait genre décider du rythme d'un film basé sur les commentaires immédiats des gens? Ça serait fucking scary, là. Tu sais, là, tu viens de détruire une œuvre qui existe dans une entièreté, tu sais.
Moi, ça me fait juste penser à George Lucas, là, qui a fait ça avant tout le monde. Là, il était précurseur à scraper ses films à multiples reprises, là. Puis lui a bien compris en cachant les copies originales, en s'arrangeant pour pas qu'on soit capable d'acheter les originaux. Mm-hmm. J'écoutais un podcast récemment qui faisait un review de THX, mm-hmm, 38, OK. C'est ça. Il a fait énormément de modifications, puis il avait fait des plans CGI, genre en 2005, de ce film-là. Mm-hmm. Mais c'est comme, il rend plus disponible la version originale. Fait que tu peux même plus regarder le classique du cinéma que les gens ont vraiment trippé dessus. Il faut juste, tu vois, genre la vision d'un George Lucas sénile qui se met à crisser des affaires en CGI dans ses films-là, puis à scraper le montage, ouais, puis à... C'est comme weird, là. Maintenant, une œuvre vit avec une époque, puis faut que tu le prennes comme ça, là, je pense.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis en tout cas, on ne passerait pas à un long débat là-dessus, mais je trouvais ça juste comme intéressant de se questionner là-dessus, parce que ça a comme des conséquences éthiques et politiques, potentiellement, comme vraiment dangereuses. Donc, et puis c'est ça, avec tout ce qui se passe dernièrement, avec les Russes, avec, tu sais... Je pense que comme on commence, c'est comme la pointe de l'iceberg de les applications néfastes potentielles de la technologie. Puis je pense qu'on est vraiment rendu à un stade très, très près où comme on va pouvoir insérer des acteurs et retirer des acteurs de films pour diverses raisons. Tu sais, ça va prendre combien de temps avant que Netflix comme édite toutes ses saisons de House of Cards puis avec un autre acteur.
Ouais, c'est ça qui va... Christopher Plummer à la place.
Exact. C'est ça qui vont deepfaker comme c'est ça là, tous les acteurs problématiques là, ils ont comme le bouton Me Too là, c'est comme oh tel acteur a eu un scandale, on peut comme le remplacer genre. C'est comme ouais, ok, mais tu sais c'est t'sais, c'est le principe, là, ok, là, je vais deep, là, mais tu sais, c'est le principe de l'Holocauste, là. Il l'enseigne à l'école en Allemagne, puis c'est ça qui fait que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est un des pays les plus, tu sais, je sais pas, là, comme conscient de son histoire, puis des répercussions. Tu sais, faut pas tourner le dos au trauma non plus, tu sais, faut pas juste comme. Même des films, des fois, qui vieillissent mal, ou avec des acteurs qui, comme le temps va dire que c'est devenu problématique. Tu sais, je veux dire, ouais, d'éradiquer la mémoire, on dirait que ça fait juste jeter un petit voile de. C'est un Febreze dans une toilette qui pue là, tu sais, je veux dire, ça c'est ça là. Voilà.
Quelle belle métaphore.
Je pense qu'on peut topper cette métaphore, Pascal. Alors, on va passer à la prochaine chose rapidement. C'est le Comic-Con à San Diego. Et donc, il y a eu toutes sortes d'annonces et de trucs. C'est pour ça que vous avez vu déferler les bandes-annonces.
Oh my God! Est-ce qu'on peut parler de la bande-annonce de Cats? Qu'on peut en parler?
On peut en parler.
Oh my God!
La bande-annonce de Cats, le epic musical de Tom Hooper. God. Avec James Corden, qui apparaît le premier dans la bande-annonce. Crédité comme le premier, Taylor Swift, tous ces gens-là. Et c'est le gros film prestigieux pour les Oscars 2020.
Ouais, mais...
Oh my God!
On verra, là. Mais je savais depuis un bout qu'il travaillait là-dessus, mais je pensais pas qu'il allait faire du motion capture comme ça. Je pensais qu'il allait assumer des beaux make-up. Ou... Là, il y a plein de mimes là, qui se promènent sur Facebook.
C'est le truc le plus drôle, là, pour vrai.
Il compare le make-up traditionnel à genre ça, là. À ce truc-là, genre le Uncanny Valley vraiment épeurant.
Puis aussi, comme il y a une question d'échelle un peu bizarre, là, comme le chat, mettons, qui est avec les ustensiles puis l'assiette, puis c'est comme... Il est super petit, mais comme un chat, c'est pas si petit que ça, d'habitude. Il comme... y a vraiment des espèces de questions de simple bon sens qu'on dirait qu'ils ont échoué à répondre.
Moi, j'ai lu quelque part sur Internet, là, un génie là, sur Twitter, là, je pense, mais ça a été repris. Il dit « Cats, on dirait que c'est le meilleur prank fait sur des célébrités, genre, ever. » Par Hollywood, là. C'est comme, on dirait qu'ils ont comme fait un gros prank sur genre Idris Elba, Taylor Swift, t'sais, genre Judi Dench, Jennifer Hudson, James Corden, t'sais, on dirait qu'ils ont Jason Derulo, t'sais, on dirait qu'ils ont tous été comme genre trollés, là. T'sais, embarque là-dedans, tu vas voir, ça va être, t'sais, ça peut pas échouer, puis là, genre, bienvenue dans l'Internet, là, où oui, ça peut échouer, là, puis lamentablement. Mais t'sais, genre, ça m'a rappelé tout instantanément, là, t'sais, les images, les mimes, là, t'sais, de Nicolas Cage, où ils font juste mettre sa face avec du mauvais Photoshop sur n'importe quoi. Puis là, genre, ça m'a tellement fait penser à ça, le style que j'ai vu de, comme, de l'actrice, je pense que c'est Jennifer Hudson ou de Judi Dench, là, je faisais juste voir des styles, des screenshots, tu sais, de la bande-annonce, puis je partais à rire tout seul chez nous. Puis là, genre, j'allais, genre, googler Nicolas Cage Cat, puis là, genre, c'est du Photoshop similaire. Là, j'étais comme...
Mais c'est des, on s'entend que c'est des furries, là. C'est des... Tu sais, c'est des furries, la communauté furries, là, de geeks, là, qui se déguisent comme en animaux poilus, là. Ils ont comme des boobs, pis tout, là, c'est comme...
Ça ressemble plus à du fan art que de quoi d'officiel qui vient d'un gros studio qui ont mis vraiment beaucoup d'argent là-dedans.
Mais c'est ça!
Mais Tom Hooper, là, hot or not?
Hey, attends, j'allais le dire, justement, c'est que moi, le problème, c'est que je suis un gros fan des Misérables.
Ouais, moi aussi!
J'ai défendu dès le début, puis que je trouve qu'il y avait vraiment une approche intéressante au musical. Je trouvais qu'à bien des égards, c'était un film qui avait le pied vers l'avenir. Tu sais, je trouvais que comment il capturait les performances, tu sais, comment l'acting passait viscéralement dans un musical. C'était pas un film parfait, c'était un film qui... Ben, tu sais, c'était comme trop bourré. Les performances vocales.
Il squeezait un roman ultra chargé dans un film de 2 heures, c'est sûr.
Mais cela dit, moi, je trouvais quand même... Puis oui, moi, dans ma liste de la décennie, Les Misérables, il s'y trouve quelque part. Là. Moi, je trouve vraiment que c'est un film qui a de la valeur. Mais en même temps, c'est-tu une erreur? Parce que, tu sais, avec The Danish Girl, King's Speech, puis là, tu sais...
King's Speech, on s'entend que c'est un des Oscars les plus oubliables ever. Là?
Ben ouais, mais en même temps, c'est tellement... C'est un peu le bouc émissaire. T'sais, tant qu'à moi, c'est quasiment pas oubliable. C'est vraiment juste un cas de figure de genre, ils l'ont raté, là, cet Oscar-là. C'est vraiment... c'est vraiment un film médiocre, là, moi, je trouve, tu sais. En tout cas, mais fait, en ce sens, c'est pas oubliable. Pour moi, c'est quasiment genre, quand je me rappelle à quel point les Oscars peuvent être insignifiants, je me rappelle instantanément de The King's Speech, tu sais. Fait
en puis tout là, cas... mais Cats, vraiment, ça a comme tellement attiré l'attention de tous les trolleurs, puis les mimeurs, puis j'ai vu des montages, genre, le trailer de Cats avec la musique de Us, de Jordan Peele, toute cette année. Le mash-up de l'abandon de Cats, puis de Enter the Void. Tu sais, ça a l'air super psychédélique, weird, là, puis comme ça marche plus que la balance originale.
Hey, mais on se dit ça, on fait un pacte, le live, là, puis on va le voir ensemble, puis on en parle au podcast.
On peut faire ça.
Hey, la dernière fois qu'on a fait ça, on a été voir de Dead Don't Die, puis...
Ça a-tu mal fini, hey, hein? On n'a pas parlé au
on
podcast,
on peut l'accrocher au podcast. Ah, mais moi, j'ai trouvé ça vrai... Moi, je trouve que c'est un échec, ce film-là, là, mais on peut ne pas dépenser notre salive dessus tant que ça. Là.
Quelle déception!
Ouais, c'est un gros turn-off. Là. On a déjà jasé beaucoup hors d'onde, mais je pense que c'est un film qui s'est fait un peu trop rapidement, puis parce que sur papier, il y a tous les ingrédients. Tu sais, tu arrives à des producteurs, là. T'as Jim Jarmusch qui dit « J'ai Adam Driver, j'ai Bill Murray, c'est ma version des zombies. Il va y avoir des caméos de plein de musiciens, tu sais, Iggy Pop en zombie, tout ça. Ah, puis j'ai aussi signé Selena Gomez, tu sais. Tout est là, tous les publics sont comme couverts, t'es comme, c'est sûr que ça va être un hit. Fait que j'ai l'impression que ça s'est tourné super rapidement. Contrairement à la très grande majorité des films de Jim Jarmusch, je trouve que le film, il est pas très beau.
Hey non, c'est la photo est catastrophique. Il y a une scène de Day for Night à la fin du film, puis genre
peut-être que
c'est une joke là. Je sais pas si c'était comme.
Je pense que c'est quand même c'est quand même un clin d'œil à plusieurs productions de l'époque.
Parce que la joke est comme pas soulignée, tu sais. Il aurait fallu qu'il. En tout cas.
Mais ça fait vraiment film brouillon.
On dit qu'on n'en parlera pas, mais on en parle, là. Mais non,
c'est ça. Mais ça fait film brouillon. Film que ça aurait pris une autre lecture. On dirait qu'il y a comme trop d'idées de premier jet qui sont là-dedans, puis que c'est pas cohérent au complet. Fait que bon, un film oubliable cette année. Sinon, juste pour finir aussi sur Comic-Con, juste dire que Marvel a annoncé donc toute sa slate du Phase 4, de la quatrième phase du MCU. Donc, toutes sortes de shows télé qui s'en viennent sur Disney+, qui vont être lancés en fin d'année, toutes sortes de films, etc.
C'est tellement drôle parce qu'il y a genre une heure, j'étais sur le podcast Les Mystérieux Étonnants de mon ami Benoît Mercier, qui est un podcast geek. Là, ça fait 13-14 ans qu'ils font ça. Là, c'est des granddaddy du podcast. Puis, on est passé à travers les Marvel au complet. C'est comme un genre de déjà-vu. Là.
Mais bref, tout ça pour dire que ceux qui s'intéressent, c'est disponible en ligne, les infos. Dernière petite actualité, ben de fun, il y a un film... Oui, vas-y, Rémi.
Comic-Con, c'était-tu encore sur le Comic-Con?
Non, ben il y a eu d'autres trucs aussi.
Parce qu'il y a un trailer de Jay and Silent Bob Reboot aussi qui est arrivé.
Ouais.
ça fait deux films que j'haïs les affaires de Kevin Smith, mais j'aime tellement Kevin Smith qu'on dirait que j'ai le goût de le voir. Tu sais, sur... J'ai comme J-Bobs dans mon cœur, ça a une place bien particulière parce que c'est arrivé comme pas mal en même temps que ma cinéphilie. Là, le premier DVD que j'ai acheté ever, c'était J-Bob Contre-Attaque. Oh. Le premier DVD que j'ai eu, c'était ça. Fait que comme, je sais que ça va être poche, mais on dirait que j'étais tellement excité d'y voir. Là, puis là, ils sont tout ridés. Là, puis Kevin Smith qui a perdu genre 200 livres.
Ouais, c'est ça.
Il y a plus rien qui fait du sens, mais dans bande-annonce, il y a genre Matt Damon puis Ben Affleck sont de retour dans l'univers. Shannon Elizabeth, qu'on n'a pas vu depuis American Pie 12. Il y a comme plein... Tout le monde est là. Toute la gang de Kevin Smith se sont regroupés. Fait que moi, je sais pas, là, j'étais un peu content. J'ai l'impression que ça sera pas très bon, mais... On dirait que ça m'a mis de bonne humeur, ce petit deux minutes-là.
Ben, j'imagine que pour les fans, il faudrait voir, parce qu'ils vont faire une tournée nord-américaine, comme ils ont fait un peu avec leur dernier film. Il y avait eu à Fantasia, c'était Tusk?
C'était Yoga Hoser.
Ah, Yoga Hoser. Oh. Donc, un peu la même formule qu'ils reprennent ici avec, tu sais, achetez votre billet, puis on est là pour faire un Q&A, puis ça va virer en comme diction d'une heure, une heure et demie. Là.
Avant le film, là, juste Kevin Smith qui présente un film, c'est interminable. Là. Il y avait eu le gag à Fantasia, quand il avait présenté Yoga Hoser, il faisait l'intro. Puis, tu sais, c'est comme, il y a une caméra live qui projette sur l'écran géant. Puis, il était rendu genre à 50 minutes d'intro là, pour son film. Puis, ça affichait à l'écran carte pleine. Tout le monde a ri. Là, il est juste comme, il a trop parlé. Là, juste avant le film, en plus, 50 minutes d'intro pour un film. Là, c'était assez insane.
Donc voilà, alors ils sont de retour, Jay et Bob Contre-Attaque, ou Reboot, hein, Jay and Silent Bob Reboot. Ouais. Autre gros film, en fait, que je voulais souligner, parce que c'est le genre de film que si vous ne l'attrapez pas au cinéma, ça va être dur de l'attraper par la suite. C'est le film événement de l'an dernier. Un film
Avatar.
Argentin okay. de 14 heures.
Oh là là.
Ah oui, tu m'en as parlé.
En 6 parties, avec les 4 mêmes actrices. Chaque partie est comme un genre de cinéma différent. Ça s'appelle La Flore. Et ça va jouer donc au cinéma moderne en 3 parties ou à la Cinémathèque québécoise en 4 parties. Donc, sur des soirs consécutifs, parce que c'est quand même un film de 14 heures. Et il y a vraiment une rétrospective, en fait, de ce cinéaste qui sera au cinéma moderne. Il y aura une discussion avec Mathieu Ligoyette, le rédacteur en chef de Panorama Cinéma. Donc, une occasion assez unique de voir ce film en salle et de voir le cinéaste argentin. Mmh. Alors ça, je voulais le noter. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que notre collègue Olivier Bouchard a commencé à le visionner et va écrire un texte dessus. Et il m'a dit que c'était comme le film de l'année. Là. Lui, il est vraiment vendu jusqu'à présent. Donc,
j'aime ça que tu dises, il a commencé à le regarder parce ouais. que c'est comme, ouais. c'est un film, là, on s'entend, mais c'est tellement long que c'est sûr que tu l'écoutes en plusieurs shots, là.
Ben, puis comme c'est épisodique, puis c'est vraiment, tu sais, ça a été lancé au cinéma en plusieurs parties, tu sais, c'est pas le même type de film. Tu sais, il y a vraiment des pauses et des moments où la narration change et... Parce que comme, mettons, il me disait que la première, en 6 parties, donc... la première partie, c'est comme un film d'horreur. Ensuite, je pense que c'est un film d'espionnage. Puis c'est comme 6 trucs comme ça qui se rejoignent, plus ou moins. Donc, c'est ça. Un espèce de film-événement comme on en fait peu dans l'histoire du cinéma.
Mm-hmm.
Mais là, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Montréal? Là? C'est évidemment le 23e Festival international de films Fantasia. Et non seulement on y va en tant que cinéphile, on s'amuse là-bas, mais aussi, toi, Rémi, tu es là en tant que programmateur des courts-métrages.
Exact.
Donc, effectivement, bon, faut prendre un peu tout ce qu'on va dire avec un grain de sel. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps. On avait un jury avec la QCC. Donc, c'est sûr qu'on a un peu des partis pris pour le festival, mais même avant d'être avec eux, on y allait en tant que spectateur.
Ben oui.
Et avant un peu, peut-être, d'aller dans les critiques de films précis, on peut peut-être un peu parler de l'édition en tant que telle, ce qu'on en ressent, comment on voyait l'édition avant que ça commence, et puis maintenant, un peu notre ressenti à mi-parcours. Toi, Pascal, t'étais en pré-prod, t'as pas eu le temps vraiment d'y aller à Fantasia.
Ouais, non, moi, c'est terrible, terrible, terrible. Moi, ceux que j'avais flagués au podcast, c'était ben, effectivement ceux que j'avais eu la chance de voir à Berlin, puis ça c'est toujours, là, House of Hummingbirds qui joue ce mercredi, j'ai quand même regardé, il joue à 18h30, je crois, ce mercredi. Ça, c'est vraiment un incontournable, moi, c'était de loin le meilleur film que j'avais vu à Berlin, de tous les films que j'avais vus cette année, là, c'est that good, là, c'est vraiment excellent. Et un film japonais extrêmement stimulant, éclaté, avec une genre de soundtrack de jeux vidéo 8-bits, What the fuck Japan, mais avec toujours des bonnes idées qui se renouvellent. On parle du film We Are Little Zombies aussi. Donc, ces deux-là, ben, je peux vous les mettre sous votre radar parce que je les ai vus avant, mais non, effectivement, moi, c'est le Fantasia le plus misérable de ma vie. Mais ce mercredi, je vais remédier à la situation. Là, j'ai une journée de congé, fait que mon plan, c'est genre d'aller voir 4 films back-à-back. Là. Mais
That's my boy!
Ouais, that's my boy, mais là, je suis un gros zéro en ce moment. Là. Pour des raisons, je m'en excuse, là, je fais un film, là, humblement. De mon bord, c'est ça. Mais,
c'est comme la meilleure raison, moi, quand même, pour manquer un festival.
J'ai rien à dire sur Fantasia, donc vous avez le floor, les cocos. Ouais.
Hey, mais pour vous mettre en contexte, là, moi, souvent, on prend une bière, là, t'sais, en enregistrant les podcasts ce soir.
Ouais.
J'ai un verre avec une pastille de vitamine C dedans présentement. C'est même pas une joke, là. Je suis comme en carence. Là. Moi, je pense que j'étais à 24 films en plus des programmations de courts-métrages que je présente puis les activités qu'il faut que j'aille, genre les cocktails et ces trucs-là. Fait que j'ai vu beaucoup d'affaires, beaucoup de... Aujourd'hui, j'ai vu 3 films là, qui sont tout frais dans ma tête. Je sais même pas par où commencer, en fait, pour vous en parler. Mais je pense que, pour vrai, Paul, je vais te laisser commencer puis je vais bouncer sur toi, là.
Ben, c'est ça, juste avant qu'on se lance dans les critiques de films précis, un peu des impressions de cette année. Je pense que Fantasia, c'est un peu un tournant, puis pour des raisons un peu qui est hors de son contrôle, tu sais, j'ai l'impression que c'est une année qui est un peu moins forte que d'habitude, puis je m'explique, c'est-à-dire que le cinéma de genre va très bien. Et on en présente dans tous les festivals, tous les plus gros festivals en veulent, Cannes, Venise, etc., etc. Et on dirait qu'il n'y a plus peut-être ce stigmate ou cette cette idée que le cinéma de genre est comme de seconde zone. On dirait que aujourd'hui, plus que jamais, c'est comme sur un pied d'égalité avec les drames les plus prestigieux et les cats de ce monde. Et pour cette raison, j'ai l'impression que c'est plus automatique que si on a un film de genre ou d'horreur, d'action, de science-fiction qui sort dans ces eaux-là, qu'on le soumène automatiquement à Fantasia. T'sais, j'ai l'impression que maintenant, les films vont à Cannes, puis ils vont au TIFF, puis à Venise, puis à Locarno, puis Berlin, puis ça fait que, par la force des choses, on dirait qu'il y a des films qui échappent à Fantasia qui peut-être que par les années précédentes auraient été automatiquement soumis à Fantasia. Je lance comme exemple Midsommar d'Ari Aster, qui est sorti en salle à Montréal une semaine avant le festival. T'sais. Puis je trouve ça assez ridicule parce qu'on s'entend que ça a été le film, un film d'ouverture parfait selon moi pour Fantasia.
Ouais, ouais.
Ou sans nécessairement être un film d'ouverture, mais dans les premiers jours du festival. C'est tout à fait le genre de film que bon, on l'a vu en salle, puis c'était super cool, tout ça, mais l'ambiance de Fantasia, c'est quand même un autre niveau. Le public, ça reste le public le plus électrique au monde, tout ça. Et c'est un film, justement, d'un cinéaste passionné qui s'amuse un peu à détourner les codes de l'horreur, tout ça.
Justement, une semaine avant, ça brise la sortie parce que, mettons qu'il avait bloqué la sortie au Québec, mais il sort ailleurs, ben il va être en torrent ou il va être disponible d'une autre façon, même si les gens veulent le voir avec le public. Mais ils peuvent pas vraiment décaler la sortie, mais là, il est en salle depuis une semaine. Fait que c'est un peu too late pour Fantasia. Ouais. C'est parce que ça arrive plusieurs fois. Il y avait eu Scott Pilgrim, par exemple, une année. Là, cette année, en fait, il y avait The Art of Self-Defense qui a été présenté une semaine avant sa sortie en salle, qui est d'ailleurs un de mes coups de cœur du festival jusqu'à maintenant. Mais le film est sorti une semaine avant, fait que le public de Fantasia l'avait comme en primeur avec l'ambiance de Fantasia qui vient avec. Eux autres, ça les aide aussi au niveau de la pub. Tu as des fans de films de genre qui vont dire que hey, c'était-tu bon ce film-là, allez le voir. Mais Midsommar, une semaine avant, c'était juste tellement le pire timing.
Non, c'est ça. Puis c'est un peu dommage. Puis en tout cas, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais entre ça, puis il y avait un côté, je trouve, très. Très nostalgique cette année dans la programmation, puis notamment le film d'ouverture Sadako, qui est le 13e film de la franchise de Ring, Ringu, là, la version japonaise, et avec le réalisateur original qui revient aux commandes. Et lors de la soirée d'ouverture, c'était un peu ça le discours. On revenait sur l'histoire de Fantasia, sur le fait que c'est vraiment le festival Fantasia qui avait fait connaître la vague de G-Horror, puis le film Ringu original. Donc, on peut y aller un peu dans le désordre. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Qui est pour l'instant le meilleur film que j'ai vu cette année, sachant que j'ai pas vu tous les films, là, évidemment. The Gangster, The Cop, The Devil, de Lee Wonta. Okay. Ça, c'est donc un film qui était présenté à Cannes. Et je pense que c'était hors compétition, dans une séance spéciale, quelque chose comme ça. Et c'est un film coréen d'action, comme ils en ont le secret, super léché, vraiment dynamique, rythmé, montage efficace, et surtout avec trois acteurs ultra charismatiques. Et The Gangster, The Cop, The Devil, donc c'est un boss d'un gang, un policier aux méthodes un peu troubles, un peu. C'est toujours sa frontière entre ce qui est légal ou pas. Et un tueur en série absolument psychopathe. Dans un scénario qui rappelle un peu la prémisse de M de Fritz Lang, c'est que la police et les criminels vont s'allier en fait pour essayer d'attraper ce tueur en série qui rôde. Parce qu'il s'attaque à peu près à n'importe qui. Mm-hmm. Et il va même s'attaquer donc à ce malfrat, ce boss de gang, et nuire ainsi à sa réputation, qui est comme l'une des choses les plus importantes pour les mafiosos. Ce gangster, justement, est interprété par Don Lee. Et lui, c'est comme la plus grosse vedette en Corée du casting. Et tu sais, quand on parle d'introduction à un personnage dans un film, il y a vraiment une des introductions les plus badass de l'histoire du cinéma dans ce film-là. Tu sais, tu le vois, c'est vraiment comme un acteur qui est ultra massif, ultra fort et bien portant, qui se pratique donc sur un punching bag avec des assistants qui le tiennent pour lui. Puis tu sais, le son est crinqué, les effets sonores, là, les coups vraiment retentissent avec beaucoup d'écho dans cette salle pleine de gardes qui le surveillent. Et là, il y a un de ses assistants qui vient lui dire « Ah, chef, il y a un policier qui est ici, tout ça. » Et là, il commence à enlever ses gants de boxe, puis dit « Bon, rangez-moi le punching bag. » Et lorsqu'ils font tomber le punching bag, tu te rends compte que finalement, il y avait un corps à l'intérieur qui se met à saigner. Et là, tu te dis « Oh boy, la personne à l'intérieur vient de passer un mauvais quart d'heure. » Donc ça, c'est l'introduction de Donnie, puis ça donne, tu sais, dès le début du film, ça donne le ton un peu. Mm-hmm. Une espèce de film là, plus cool, que Tarantino ou Park Chan-wook ne renierait pas. Et c'est pas un film nécessairement qui va réinventer grand chose ou transcender le genre, mais c'est vraiment une espèce de crowd pleaser ultra efficace, une espèce de jeu du chat et de la souris. Et dans le fond, c'est aussi de. On s'amuse beaucoup parce que là, le policier et le chef doivent collaborer, mais personne ne se fait confiance, donc ils sont toujours un peu en train de se piéger l'un l'autre juste pour couvrir leurs arrières parce qu'ils savent très bien qu'une fois que le tueur en série, une fois que ce cas-là sera réglé, ils vont recommencer un peu à se débattre l'un l'autre et à vouloir être plus fort l'un que l'autre. Donc ça, une très bonne pas une surprise, mais vraiment un film absolument efficace pour les amateurs de films policiers d'action. Vous aurez bien servi, c'est le réalisateur Lee Wonte.
Puis t'es pas tout seul, Paul, hein? Moi, je l'ai pas vu, là, mais à date, dans les échos, c'est pas mal un des favoris du festival. Là.
Ouais, non, c'est vraiment,
vraiment
bon.
C'est assez unanime.
Bon,
là. Ouais. Puis je pense qu'il y a même une deuxième projection qui a été prévue, donc pour ceux qui ont la chance...
Oui, le 28 juillet.
Moi-même, j'ai donné la chance à un film coréen qui s'appelle Idol, puis j'ai été super déçu, parce que d'habitude, j'essaie d'aller voir un ou deux thrillers coréens, puis Idol, c'est une espèce de ramassis de trop d'affaires qui dure 2h20, qui finit plus. Je gaspillerais pas du temps là-dessus, là, mais tu sais, j'ai comme fait le mauvais choix. Puis c'est. Tu sais, tu vas voir comme plus de films que la majorité de monde voit en un an, mais là, t'es comme, oh fuck, j'ai manqué le film. Tu sais, tu sens super mal. De... moi, le premier que je veux vous parler, en fait, c'est une découverte d'un réalisateur que j'ai fait qui. Je comprends même pas pourquoi j'ai jamais été sur ma map, mais je l'ai découvert à travers le documentaire qui s'appelle, je vais essayer de le dire en un souffle. Blood and Flesh, The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson. Donc, c'est un film de David Gregory. Et le film est donc sur la vie de Al Adamson, qui est un réalisateur qui a fait du série B. Même série B, ça serait très, très sympathique de dire ça parce que c'était plus du série C, D, E, F. Là. Il faisait ça dans les années 60-70. C'était du cinéma d'exploitation. Puis le documentaire, en fait, il retrace... pas mal sa carrière en général. Il a fait énormément de films, donc il passe pas à travers toute sa cinématographie. Mais ce qui est intéressant et choquant dans tout ça, c'est que Al Adamson faisait des films chocs, des films d'horreur, entre autres. Et il est mort assassiné en 95. Donc le documentaire, c'est comme une rétrospective de sa carrière, mais aussi la fin du documentaire devient comme un true crime documentary où là on embarque plus dans l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un l'assassine, qui l'a assassiné. Puis il y a un travail de recherche de fou qui a été fait autour. C'est le même réalisateur qui avait fait le film sur l'île du docteur Moreau, donc Lost Soul.
Ouais,
qui est super divertissant, puis Blood and Flesh est aussi divertissant que celui-là. Là, le Dr Moreau, là, je parle de la version de comment il s'appelle, donc, le gars avec le gros chapeau.
C'est juste comme... Richard Stanley.
J'ai Richard Stanley, j'ai juste comme la silhouette de l'homme dans la tête, là. Mais bref, tu sais, c'est vraiment un vrai passionné de cinéma, puis il a vraiment bien fait son enquête, mais il en a parlé devant la salle, qui est allé chercher des archives que personne n'avait, puis il a surtout essayé de retracer tous les films de Al Adamson qui sont... pour plusieurs, assez introuvables. C'est des B-movies qui étaient présentés dans des ciné-parcs puis qui étaient faites souvent... ce qu'il expliquait, c'est par exemple, il allait faire un film sur une mode qui était en cours, c'est pour calquer, mettons...
les films de motards, les films de...
Ouais, c'est ça. Fait que là, il va faire un film de motards, mais là, finalement, la mode s'épuise. Fait que là, il va aller retourner des scènes, changer le titre... puis là, il va repackager le film pour faire quelque chose de nouveau, pour fitter dans l'air du temps. Fait que c'était comme...
Fait qu'il va carrément réutiliser les négatifs de ces films-là.
Exact, c'est ça. Il va faire du crossover en plein d'affaires. Puis il y a des beaux parallèles à faire, en fait, avec la carrière de Ed Wood. dans toute sa splendeur. Puis entre autres, en fait, à Fantasia, ils ont présenté par la suite, c'est Severin Pictures justement qui ont fait la restauration, mais ils ont présenté son grand masterpiece qui est Dracula versus Frankenstein, qui est un nanar ultime. Là. C'était vraiment jouissif de découvrir ça. C'est tellement weird que ça n'a jamais été sur mon radar. C'est vraiment le genre de truc qui m'excite beaucoup, mais là, j'ai fait la découverte à fond avec cette projection-là de minuit. Al Adamson, un peu comme Ed Wood, allait récupérer des vieilles stars déchues que les gens se souvenaient à peine. Il mettait dans ses films. Il y avait toujours la même petite crew qu'il utilisait. Il faisait du cinéma d'exploitation un peu comme Ed Wood en utilisant des vieux trucs classiques là, du cinéma, des vieux codes classiques. C'est ça, je sais pas comment définir Dracula contre Frankenstein, mais dans le documentaire, il en parle que de base, en fait, il y avait même pas Dracula ni Frankenstein dans le film, puis c'est dans le premier cut qu'ils ont fait, puis ça, c'est toutes des reshoots qui ont été faits pour packager le film pour pouvoir le vendre. Ça a été son premier succès commercial, en fait. Un film qui a rien coûté, mais que, juste par son titre, dans les années 70, avec la montée des films de Hammer, le Dracula de Christopher Lee, par exemple, ben juste d'avoir Dracula versus Frankenstein sur une enseigne de cinéma, les gens allaient courir pour voir ça. Mais, tu sais, essayez de voir des extraits sur YouTube, c'est insane, là. Dracula, il y a comme du maquillage d'Halloween puis des dents en plastique, là, comme on a tout vu quand on est kid, là. C'est littéralement ça qu'il y a dans la bouche. Il n'y a aucun effort de plus qui est mis, mais en même temps, il y a tellement de charme, là, dans ces films-là. C'est tellement fait avec les moyens du bord, puis avec... Tu vois que c'est ses amis là, qui jouent dans le film, puis c'est sa blonde qui joue le personnage principal, puis il prenait ce qu'il y avait autour de lui... Mais c'est ce qui rend ça vraiment charmant. Donc, le documentaire et le long métrage, je pense que je les recommande fortement. Blood and Flesh et Dracula versus Frankenstein. Ça, c'est dans les belles expériences que j'ai eues cette année. Ça fait des beaux programmes doubles. Donc, je te laisse la parole pour le prochain, Paul.
Ouais, un autre truc que je voudrais souligner, en fait, c'est une séance de court-métrage, mais pas une des tiennes, malheureusement, Rémi, mais genre, on va revenir au quoi que quoi. Mais je voulais parler d'une séance de court-métrage de la cinéaste japonaise Nao Yoshigai, qui est une séance de 4 de ses cours qui a été présentée dans le cadre de la section Caméra Lucida. Et c'est une vraie découverte très cool, en fait, d'une jeune cinéaste qui, à la base, est chorégraphe. Ça veut pas dire qu'elle fait uniquement que les films de danse, mais clairement le rapport au corps et au mouvement est absolument central dans ces films. Mais au-delà de ça aussi, il y a vraiment une espèce de sound design super travaillé. Et en fait, là où le corps est vraiment au centre de sa démarche, c'est que tous les sens du spectateur sont vraiment mis à l'épreuve. Mais pas mis à l'épreuve, mais plutôt sont sollicités. Presque même l'odorat et le goût, là, mais c'est que c'est des films tellement sensoriels, tellement beaux et doux et vivants, organiques aussi, qu'on sort de ces films-là avec vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose qui va au-delà de l'intellectualisme, qui est purement là, physique. Et ces films, c'est des espèces de petits contes enchantés avec une grande logique de rêve éveillé. Il y en a un qui était très cool, ça s'appelle The Peach and the Fang, la pêche et la danse, si on veut. Et puis c'est une espèce de conte sur une jeune employée d'une petite un plan de pêche qui se rend compte qu'il y a une bête qui vient voler une de ses pêches puis essaie de la retrouver. Et elle, en même temps, à côté, elle est également designer sonore et elle enregistre toutes sortes de sons de son quotidien. Et à un certain moment, donc, elle, en fait, c'est un autre personnage qui va commander toutes sortes de pêches du Japon pour pouvoir les tester, les goûter, pour essayer de retrouver le goût de cette pêche-là, de cette petite ferme-là. Et il va comme avoir toute une séquence où elle va manger les pêches et enregistrer les sons de elle qui mange les pêches. Puis ça, c'est un peu comme du... tu sais, une mode YouTube, là, beaucoup qu'on dit le ASMR, là, l'espèce de l'enregistrement de gens qui chuchotent, puis qui font des petits trucs ou qui mangent ça. Ben, il y a un peu de cette logique-là dans son cinéma qui est quand même assez étrange de retrouver ça dans une salle comble de comme 200 personnes qui regardent ça de cette cinéaste. Un autre de ses films qui était très très cool, Otomaru Days, qui est en fait une espèce de film qui se passe dans une petite maison japonaise. là où une femme semble vivre seule. Et il y a comme quatre esprits, quatre femmes qui s'amusent un peu, en fait, à c'est pas vraiment à la torturer, mais un peu à comme habiter l'espace. Et puis, à un moment donné, elles se mettent à ramasser tous les cheveux, les rotures d'ongles, la peau morte qu'elles trouvent dans la maison pour en faire une petite poupée. Puis, ça a l'air super creepy puis dégueu. Celle-là, un peu, il y a comme beaucoup d'humour aussi dans son cinéma. Mais c'est fait d'une manière très enfantine. Tu sais, un espèce de cinéma que tu sens que c'est pas nécessairement écrit comme... Ben oui, évidemment, c'est tout pensé d'avance parce que c'est beaucoup trop complexe. Comme il y a des espèces de longs plans séquences, parfois des longues chorégraphies. Mais le processus d'écriture doit vraiment être, d'après moi, assez libre. Et ça en fait un cinéma qui est très, très léger, en fait, très vivant. Puis qui ose plein de choses. Et je me dis que c'est peut-être genre son passé de chorégraphe qui fait qu'elle a peut-être pas la même approche du cinéma. Parce qu'il y a tellement de cinéastes qui sont uniquement nourris de cinéma que des fois, ça fait vraiment des films qui sont un peu semblables ou similaires, ou tu sais, qu'il y a des modes qui se découvrent. Alors qu'elle arrive comme ça, puis complètement, on dirait, tu sais, dans son propre univers, qui a comme rien à voir avec ce que je connais du court-métrage ou du cinéma japonais. Donc ça, c'était vraiment cool. Tu sais, j'ai aucune idée si ces films vont être diffusés à Montréal dans un contexte, mais sûrement qu'éventuellement, ça sera disponible sur YouTube ou Vimeo ou tout ça. Donc, la cinéaste Nao Yoshigai, je vous conseille à la mettre sur votre radar.
Je vais rebondir, moi, sur mon coup de cœur, en fait, du festival, vu que je sais qu'on ne pourra pas s'éterniser sur tout ça, là. Mais c'est le film Swallow, qui a fait pas mal de bruit aussi cette année, là. Je pense qu'il est aussi sur toutes les lèvres pour ne pas faire de jeu de mots, de mauvais jeu de mots. Donc, c'est un film de Carlo Mirabella Davis. Pour faire un synopsis... rapide, c'est assez simple, en fait. La prémisse et le film lui-même sont très simples. Donc, c'est une jeune femme qui vit au crochet de son mari, un peu douchebag. Ça sert un peu de femme objet, pas dans le sens qu'elle je dirais femme bibelot, ok, on va dire ça comme
ouais,
ça.
Ouais.
Puis tu sais, elle vit à la maison, c'est une artiste, mais qui a pas l'air de faire beaucoup dehors. Elle s'occupe de la maison, mais son mari est comme très riche, fait une famille super riche. Puis bref, elle apprend qu'elle est enceinte, puis elle commence à avoir une obsession à avaler des objets, d'où le titre Swallow. Donc elle avale des objets de tout genre. Elle commence par une petite bille. Puis ça semble lui procurer un grand bonheur. Donc, elle continue avec des objets de tout genre et de tout niveau de danger aussi. Puis c'est ça, en fait. C'est tout simple comme ça, le film. Mais c'est comme une libération pour elle, la façon qu'elle a trouvée pour trouver son bonheur, trouver une joie de vivre. Puis on découvre cette obsession-là qui se développe à travers le film. Le film est vraiment simple. C'est principalement un lieu qui est la grosse maison parce qu'elle est toujours enfermée là. Il y a elle, son chum, ses beaux-parents, puis quelques autres personnages qui planent autour. Il y a une psychologue aussi. Mais tu sais, ils sont principalement dans ce setup-là, mais c'est juste que c'est un film tellement maîtrisé, avec une écriture fine, avec un scénario qui a beaucoup de niveaux d'interprétation, puis surtout un personnage qui est super bien construit. Puis c'est mystérieux, c'est pas gross, là, parce que j'ai vu des résumés qui en parlent un peu comme du body horror, puis c'est vraiment loin de là. Il y a rien de gore. C'est un peu dégoûtant parce que ben, se mettre des objets dans la bouche random, avaler, mettons, une batterie, c'est un peu dégueulasse. Mm-hmm. Mais tu sais, s'il y a rien de gore dans le film ou de tape à l'œil, c'est juste comme... une espèce de suite d'événements dans sa psyché que le public peut comprendre et la suivre là-dedans, mais en même temps, c'est comme une curiosité morbide de comprendre cette espèce de manie-là qu'elle a.
Puis c'est une métaphore tellement intéressante, je trouve. Puis, tu sais, j'ai pas vu le film, mais l'idée, je la trouve vraiment, vraiment forte. Tu sais, puis, on dirait qu'on. En tout cas, j'espère que le film essaie pas trop de tout expliquer. Tu sais, j'espère qu'on reste un peu dans le suggéré, puis dans la métaphore.
Le métaphorique, ouais, c'est ça.
Parce que.
Ouais, ben exact. Ça,
il y a quelque chose de tellement cool de notre époque, de cette idée où, tu sais, les hommes, justement, essaient en ce moment de dicter aux femmes quoi faire avec leur corps, s'ils doivent ou non rester enceintes, etc., etc. Donc, il y a comme toutes sortes d'idées, je pense, qui viennent un peu comme mettre le doigt sur les zeitgeist avec ce film, avec cette prémisse.
Ouais, exactement. Puis c'est que tu comprends assez rapidement pourquoi elle le fait, là, parce que tu vois qu'elle a aucun contrôle sur sa vie. C'est son chum qui a tout le contrôle sur sa vie. Fait que tu comprends un peu la raison, mais il n'y a pas plus que ça qui est tant expliqué dans le film. Mais tu comprends, mettons, la source de tout ça, mais c'est ça, c'est... Que ça soit cette compulsion-là, ben, faut que tu te fasses un peu ta propre idée, puis t'essaies de la regarder, qui struggle à essayer de se sortir de ça, de cercle vicieux-là qui est complètement incongru. Les mots sont vrais de ceux qui le disent. Swallow est probablement un des meilleurs films de cette année au festival. Avec celui que tu disais tantôt, Paul, là, je pense que c'est les deux gros coups de cœur à date.
Bon. C'est excitant, ça.
Super. Et puis, Rémi, je m'en voudrais de ne pas parler rapidement de la section des courts-métrages québécois.
Ben là...
Parce que plus d'une centaine de films, il y a eu des longs-métrages également. On n'a pas encore vu Aquaslash, là. Ça, c'est comme, il arrive en fin de festival. Honnêtement, ça, c'est le film que j'attendais le plus avant le début du festival. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Je trouve que l'idée, elle est géniale. Ce tueur qui met des espèces de lames de rasoir dans des glisses à dos dans un parc aquatique. Je trouve que ça vient chercher une terreur tellement universelle et profonde. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me terrifie. Là.
Ah, mais je suis curieux, Paul, les courts-métrages, parce que on va se le dire réellement, là, mais moi, j'ai envoyé la liste des films à Paul parce que je savais qu'il fait pas aller à toutes les projections. Puis j'étais comme curieux d'avoir son avis sur ce que j'avais programmé. T'as-tu des surprises que t'as eues au niveau des courts-métrages? Il y en a peut-être qui sont même pas passés encore. Là.
Mm-hmm. Ben, j'ai pas tout écouté encore. Il y en a plusieurs que j'avais vus dans d'autres contextes. Forcément à cause de mon poste à plein écran. Mais un gros coup de cœur, c'est Mélopée d'Alexis Fortier-Gautier. Je ne veux pas trop en parler de ce film-là parce que c'est vraiment un film qui se fait découvrir. Je sais que vous l'avez programmé aussi en salle devant un film. Ça devait être vraiment cool, la réaction des gens, parce que c'est un film un peu qui joue beaucoup sur les mystères, sur les ambiances.
C'est un film de son, vraiment. Puis dans la grande salle, c'était malade. Là, c'était vraiment un beau trip. Puis en plus, tu sais, je vais le dire, là, mais j'étais un peu pogné, en guillemets, pour faire toute la présentation de cette séance-là, parce que j'étais censé présenter juste le short. Mais Nicolas Archambault, je vais l'accuser, le pointer du doigt, qui a programmé le film Stair. Fait que c'est moi qui a dû présenter Stair, et moi, c'est mon bottom du festival. C'est vraiment mon pire film. Fait qu'il a comme fallu que j'assume le long métrage en même temps de présenter Mélopée. Je suis quand même content que Mélopée était là, parce qu'en plus, avec un long métrage qui était vraiment pas très bon, ça rehausse beaucoup la qualité du short, mais tu sais, de voir Mélopée sur un grand écran avec le son, c'était vraiment, vraiment magique comme moment. Là.
Non, c'est vraiment très, très cool. Puis honnêtement, Alexis Fortier-Gautier, c'est un des... C'est comme un cinéaste québécois qui fait surtout du court-métrage, là, que je pense co-signé Sans d'encre ou quelque chose comme ça.
D'encre de sang,
oui. Que j'ai pas encore vu, mais il a fait beaucoup de courts-métrages. Et c'est comme un cinéaste qui adapte vraiment son style pour le projet auquel il est question. Il y a comme pas vraiment... il y a moins une patte forte qu'une capacité d'adaptation qui est quand même assez étonnante. Et ce film-là en fait pas exception. T'sais, pour moi, c'est vraiment comme un des gros, gros films québécois de l'année. Immense coup de cœur. Puis il y en a plein d'autres aussi que j'avais déjà vu. Le Prince de Valby, c'est super bon. Là, je veux dire, c'est un film à voir. Puis si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne pouvez pas l'attraper à Fantasia, c'est sûr qu'il va rejouer ailleurs éventuellement.
Mais à date, les séances, il y a vraiment beaucoup de monde. Les gens sont au rendez-vous. Puis cette année, c'est au cinéma du musée. Que j'ai découvert en même temps, en fait, parce que j'avais jamais vu de projection là-bas, puis c'est une magnifique salle de 300 places. Puis là, à date, c'est ça, les séances, il doit y avoir autour de 200 personnes par séance, fait que c'est quand même très bon, là, pour aller voir du court-métrage québécois. Je suis content que les gens soient au rendez-vous pour... Tu sais, j'essaie d'enlever le mot du vocabulaire « encourager le cinéma québécois », parce que c'est le fun, là. C'est vraiment tes belles programmations. Puis j'ai mis énormément d'amour puis de, tu sais, à me casser la tête à qu'est-ce qui fit avec quoi, dans quel ordre on met ça. On a reçu vraiment beaucoup cette année, mais vraiment, il y a des belles réactions, des beaux... Puis là il reste des projections, fait que c'est encore le temps d'aller en voir. Suivez ça de près.
Super. Voilà, Fantasia, on va continuer à y aller, évidemment, dans les prochains jours. Et au prochain podcast, on va sûrement continuer, peut-être sans Pascal, vu qu'il sera trop occupé. Mais on va faire un peu un compte-rendu de nos coups de cœur du festival.
Ah, le prochain podcast, je pourrais peut-être être là, mais c'est peut-être l'autre d'après là, que je ferai une sabbatique. Là. On verra, okay, on verra, okay. On verra. Mais okay. Bon, c'est pas à Fantasia. Puis là, je sais qu'on bosse déjà notre heure, mais Paul,
oui?
On a quand même vu un film d'horreur.
Oui.
Horreur, entre guillemets, quand même, mais mm-hmm. quand même horreur. On parle du nouveau film d'Ari Aster, Midsommar, mm-hmm. que toi, pas, Rémi, tu l'as pas vu, toi.
Hey, je l'ai pas vu encore. Ben non, c'est, oh. J'ai juste vu 25 films à Fantasia. Là.
Ouais, sorry. Mais,
moi, j'ai ma liste post-Fantasia. Il y a ça, il y a Toy Story 4, il y a Crawl que je veux voir. Tu sais, j'ai comme ma liste. Là, je pense que je vais aller me faire une journée cinéma après avoir vu comme 35 films à Fantasia.
Ouais, ouais, ouais.
Mais spoil pas trop, s'il te plaît. Spoil pas trop. Je veux pas trop
non.
savoir.
C'est pas non, vraiment pas. Un film qui est dans les punchs ou dans... T'sais... Je pense que si,
non, c'est
si,
ça.
Ben, à moins évidemment que tu n'as absolument rien entendu sur le film puis que tu n'as pas vu l'affiche puis que tu n'as pas vu la bande-annonce. Mais je pense qu'on peut quand même parler un peu du film puis la prémisse de base,
mm-hmm.
Qui est toute simple en fait. C'est quatre amis de gars, des étudiants en anthropologie qui s'en vont donc dans un espèce de festival slash rituel. Étranger en Suède.
Païen, dans le nord de la Suède, là. Ouais, ouais,
qui s'appelle donc le Midsommar, qui est lieu en plein été, pendant l'équinoxe, pendant que les journées sont toujours ensoleillées. La copine du personnage principal, qui vit un deuil très grave en ouverture du film, finalement va se joindre à eux un peu comme à la dernière minute pour se changer les idées aussi, puis parce qu'elle n'a pas nécessairement le goût d'être seule.
Ouais, puis son copain un peu trop aidant, tu sais, ils ont comme un peu une relation
qui bat de l'aile, tu sais.
Dépendance, qui... là. Ouais, ouais. Ouais, ben qui bat de l'aile, oui, mais tu sais, même la fille est elle-même consciente qu'on dirait que ses névroses puis ses traumas affectent vraiment la relation, puis le gars il est comme un peu trop tout le temps, genre gentil, mais dans le fond ça le fait chier, puis en tout cas, fait que là, tu sais, il l'invite comme un peu. Par pitié, mais finalement, un peu à la surprise de tous, elle décide de joindre
à
eux.
Oui, parce que c'est un peu ça, au désarroi de ses amis. Parce que aussi, c'est censé être une espèce de retraite entre gars. Il y avait aussi question de peut-être s'essayer avec les belles suédoises blondes et tout ça. Donc, il y a tout ce côté-là dans le film. Et sans rien dévoiler, disons que le rituel ne sera pas aussi ludique leur apprendra des leçons, mais peut-être pas celles qu'ils étaient venus chercher.
Ouais, alors, de quoi, qu'est-ce qu'on en a passé? On va essayer d'être succinct un peu, là, parce que là, effectivement, le temps file, mais déjà, tu sais, dès qu'on parle de Us, les gens comparent à Get Out, dès qu'on parle, tu sais, de Lighthouse, les gens vont le comparer à The Witch, tu sais, je pense qu'on est rapide à comparer, tu sais, c'est ce genre de nouveaux jeunes cinéastes qui se mettent la main dans l'horreur, qui est pas mal foutu du tout, mais qui a quand même un gros... following ou tu sais qui attire les foules aussi hein, c'est des films très populaires, je veux dire Hereditary c'est un film c'est un behemoth au box office, tout le monde a vu Hereditary là ou presque là, je veux dire donc là on le compare automatiquement. Ben moi joué au jeu de la comparaison crétin, est-ce que j'ai préféré Midsommar à Hereditary? Moi c'est un retentissant oui en fait. Mais je vais vous dire pourquoi, en fait, c'est vraiment parce que Hereditary m'avait en fait laissé très froid. J'en avais parlé au podcast fut un temps. Puis même avec le temps, c'est pas un film qui m'est resté particulièrement. Je trouve que Hereditary était très bien fichu. On se rappelle du visage contorsionné de Toni Collette qui crie, on se rappelle, tu sais, du claquement de bouche de la jeune fille. Tu sais, on se rappelle de certains moments, mais au final, je trouvais que. Il était vraiment empêtré dans certains clichés du film d'horreur qui était. Puis oui, en tout cas, bref. Mais là où je m'en viens avec ça, c'est que Midsommar est finalement très différent. Puis je trouve ça très cool que le cinéaste, au lieu de comme concevoir l'horreur d'une façon. Tu sais, parce que ça aurait été tentant là, pour lui de juste poursuivre la lignée qui a fait son succès avec un Hereditary. Et puis là, en fait, il fait l'inverse. Complètement. C'est-à-dire, c'est un film d'horreur où tout est clair, tout est en plein jour, c'est presque tout même en deep focus, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de jeu sur ce qu'on voit pas, en fait, on voit tout, mais l'horreur est creeping, ou en tout cas, du moins, s'installe d'une façon vraiment autre. Puis, ce que moi, j'ai beaucoup aimé avec Midsommar, que Hereditary m'avait laissé un petit peu plus tiède, c'est à quel point, finalement, Midsommar est un film extrêmement... simple d'une certaine façon. Il n'y a pas beaucoup de scènes, mais les scènes prennent vraiment leur temps. Tu sais, je vais juste dire y a comme une scène où il danse, ok, j'en dis, je dévoilerai rien, il y a comme une scène de danse. Elle doit durer 15 minutes, cette scène-là, facilement, puis jamais il y a un effet d'essoufflement au sein même des scènes.
Ben, ironiquement.
Comme... ben, ironiquement, il y en a dans cette scène-là, parce que c'est un peu le point de la scène. En
tout cas, oh, bref, arrêtez, arrêtez, là, mais, tout, là.
Non, 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 on dit rien, on dit rien. Mon point avec ça, c'est qu'il y a très peu de pivots. Il y a peu de choses qui... J'ose même dire, il n'y a pas grand-chose qui arrive, mais tout est dans l'installation, comment on met la table. Finalement, c'est un film qui est plutôt lent, mais jamais ennuyant, en tout cas pour moi.
Vraiment pas, vraiment pas. C'est vraiment un film qui captive son audience du début à la fin.
Captivant, ouais. c'est ça. Il y a vraiment le caractère hypnotique, le rêve éveillé. C'est très hallucinogène aussi, tu sais, dès qu'il arrive en Suède, en tout cas, on s'en va un peu dans ces tangentes-là. Donc, on dort, mais c'est encore le jour, on se réveille, on est-tu en plein milieu de la nuit ou pas? Tu sais, il y a cette espèce de perte de repère temporel qui est ironique aussi à voir dans une salle de cinéma obscure, tu sais, d'avoir une espèce de film oppressant, ensoleillé, comme dans la salle de cinéma aussi. Je trouve qu'il y a un jeu vraiment très intéressant au niveau métatextuel, carrément, ou le jeu qu'il en fait avec son spectateur. Puis, j'ai pas beaucoup lu de critiques sur Midsommar, mais on dirait que je devance certaines critiques. Je suis sûr que les gens trouvent les protagonistes idiots. Ça m'étonnerait pas. Mais, sans rentrer dans aucun spoiler, that's the point, un peu, du film, d'une certaine façon. Donc, pour moi, le film est expie facilement, d'une façon narrative, ce péché possible-là. Mais je dévoilerai plus, pas rien de plus. Et la comédienne, elle est vraiment superbe. Elle s'appelle Florence
Pugh.
P-U-G-H, qu'on avait découvert. Moi, je l'avais découvert dans le film Lady Macbeth, qui était vraiment, vraiment pas mal aussi. Puis, une espèce de force tranquille, une fragilité, mais en même temps, comme... Je sais pas une genre de fragilité qui casse en deux, là. C'est plus intérieur, c'est plus... Non, je trouve que c'est un protagoniste quand même intéressant, malgré son espèce de, entre guillemets, faiblesse, qui est aussi un propos du film. Hein. Elle se fait un peu entourlouper là-dedans et tout. Puis que le fait que les personnages soient des étudiants d'anthropologie aussi, donc fascinés par des rites et des civilisations et des cultures, expie aussi d'autres possibles... questionnement narratif, je crois. Bon, maintenant, je suis très vague, là. Mais en gros, moi, je suis super positif du film. Je sais pas, toi, Paul, qu'est-ce que t'en pensais avant d'aller plus loin, là?
Ouais, ben, je dirais que les qualités du film sont très, très grandes. Et étant nommé quelques-unes, je rajouterais les costumes du film, la direction artistique, le casting en général aussi, ainsi que la direction d'acteur, notamment pour l'actrice principale, comme tu le disais. Une maîtrise et une confiance en fait en son cinéma, une confiance qui est palpable, tu sais, que ça fait longtemps que j'ai pas vu j'avais un peu le feeling Damien Chazelle un peu, tu sais, quelqu'un qui arrive sur la map puis comme non genre je suis capable de faire du cinéma là, tu sais. Et d'ailleurs on apprend qu'une version d'Arthur Scott qui dure une demi-heure de plus qui va être présentée dans un festival américain dans un mois. Parce que le film fait déjà 2h30, mais là c'est une version de 3h qui va être présentée. Et supposément que c'est beaucoup de scènes sur la relation entre les deux personnages principaux, le couple de protagonistes. Mais il y a quand même aussi des faiblesses dans le film qui sont assez importantes. Et, mais les faiblesses que j'ai avec le film, en fait, c'est plus par rapport à sa prémisse, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un film d'horreur qui ne transcende pas vraiment son propos de base, qui est un peu trop simpliste. Ce que je veux dire, c'est que on est encore dans un film d'horreur qui utilise la peur de l'étranger, qui encourage une espèce de xénophobie ordinaire qui n'est pas neuve. Là, on est dans un film qui pourrait s'apparenter de loin à une espèce de cousin européen blondinet de Cannibal Holocaust, mettons. Où des étudiants vont voir un peuple étranger, tout ça, des choses se passent. Et ça, mine de rien, puis on joue beaucoup là-dessus, parce que là, en fait, un des quatre groupes d'amis est justement originaire de ce village. Donc, c'est lui un peu qui convainc d'aller les voir ça. Et dès qu'il arrive sur place, puis qu'il se met à faire des accolades avec les gens, tu sais, leurs accolades sont un peu trop bizarres. Puis, tu sais, le film appuie là-dessus. Quand ils vont manger, tout le monde est très synchro. Tout le monde attend les... Puis, tu sais, il y a quelque chose qui me dérange quand même beaucoup avec ce type de cinéma où les Américains vont voir les étrangers, puis il se passe des choses, tu sais. Alors que justement, un Get Out, ce qui était révolutionnaire dans un sens, c'est que là, soudainement, on tournait le miroir vers soi-même, puis on se disait non, c'est nous le problème, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me
dis. Mais les personnages américains et de partout dans ce film-là sont aussi problématiques. T'sais, c'est-à-dire, ouais. Je pense pas qu'on est dans un film où, comment dire, le regard du blanc américain, qui ont la vérité, qu'eux ont la vérité ou la bonne façon de faire, puis regarder les barbares. Bon, quand même un peu, parce que je veux dire, effectivement, la tangente horrifique devient extrême et tout. Bon, bref. Mais je t'entends, en fait, parce que c'est un point intéressant. Ça m'a un peu agacé, mais j'avais pas mis les mots exactement, tu sais, de la façon comment t'es mis en ce moment. Mais ce qu'il faut quand même dire sur le ton du film, c'est que c'est fichtrement drôle.
Oui, c'est ça. On s'esclave par moments.
C'est
là.
Vraiment très drôle.
Et peut-être que justement, il va utiliser la tension constante qu'il arrive à maintenir tout au long du film pour nous faire éclater d'autant plus de rire. Oui, ça devient des essais de relâcheur de pression nécessaires, tu sais. Qui font qu'après ils viennent nous rechercher d'autant plus. T'sais.
Non, mais tu sais, là où Hereditary essayait d'être dark comme du Bergman, puis en plus de mettre une couche, tu sais, genre d'horreur par-dessus, là c'est genre, il y a de l'horreur, mais mon Dieu, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Mm-hmm. Puis tu sais, même de l'humour quasiment de frat boys, tu sais, il y a vraiment comme plein de tons qui se chevauchent dans le film qui est pas complètement, qui est vraiment pas inintéressant en fait, tu sais. Mm-hmm. Puis ça le rend unique, je sais pas, tu sais, puis. Je reviens encore un peu à Hereditary ou à certains autres films. Tu sais, on dirait que Midsommar, j'ai vraiment l'impression, puis le temps va me le dire ou va me le prouver ou pas, mais il va me rester ce film-là parce que, ben oui, c'est le film du rite païen en Suède en plein jour. Je sais pas, tu sais, la direction artistique, les costumes, comme tu disais, tout est tellement distinct et défini que ça crée des images extrêmement fortes, des scènes extrêmement fortes.
C'est littéralement et figurativement l'ultime film culte, finalement. Tu sais, c'est carrément ça.
Oui,
et
oui,
c'est pas surprenant nécessairement qu'il fait un flop en ce moment, mais c'est le genre de film qu'on va se rappeler, qu'on va. Tu sais, à la belle époque où on a tous fait un peu ça, là, travailler dans un club vidéo, puis là, tu conseilles des films, puis là, tu te mets à. Tu sais, t'as des clients un peu que t'aimes bien, puis tu sais qu'eux, ils ont pas trop peur d'aller voir d'autres types de films, puis là, tu dis. Est-ce tout quelque chose d'assez fucké, là? Écoute Cannibal Holocaust, là. Mais tu sais, comme Midsommar, c'est ce genre de film qu'on peut conseiller dans 20 ans facilement, que ça va encore avoir un impact. Parce que c'est vrai qu'il aborde certains sujets dont on ne parle jamais, notamment la religion, des trucs comme ça. Et malgré mes bémols auprès de la prémisse, j'avoue que je dirais rien. Okay. Mais le plan final, pour moi, ça. Ça ajoute beaucoup au film.
Dites pas grand chose, les gars. Fait que le plan final.
Non, mais
là...
je dis pas c'est non, quoi, non. Je dis pas ce qui se passe.
Je juste dire qu'il est bon.
Mais c'est ça.
Ok. Ouais, mais là, je vais entendre un plan final qui est bon, là.
Ouais, mais le.
Oh, tabarnak.
Mais tu sais pas que c'est le plan final jusqu'à temps que le film finisse. Fait
ah,
que...
j'aurais dû arrêter de vous écouter.
Ah, ok, c'est bon. On en parle plus.
Fait que voilà. Mais vraiment un film que je conseille à voir en salle. Je sais même pas s'il est encore en salle, mais c'est vraiment un film à voir.
Ouais, tu dis flop. Écoute, moi, je t'allais voir cette semaine au forum. Justement, je voulais au moins une soirée où j'allais voir un film. Là. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un film. Là. Je me suis dit, là, come on, là. Je réalise un film dans pas long, faut au moins que j'en vois un, tu sais. Puis j'étais allé au forum un lundi soir, puis il y avait comme full de monde dans la salle, en fait. Je t'avoue que j'ai pas regardé les chiffres, mais le film avait de l'air en santé, puis l'écho critique, sans nécessairement être dithyrambique, est quand même très favorable. C'est un film qui excite, définitivement.
Mais je pense que pour plein de raison, c'est un film qui peut-être parle beaucoup aux Montréalais, carrément. Là. Tu sais, comme après une visite au SQDC, ça, on va voir ça va être vraiment cool. mais vraiment, les chiffres au box-office américain, c'est pas fameux. C'est quelques millions, tu sais.
Ah bon.
Ce qui est quand même mieux que rien. Mais on est loin des. Tu sais, comme c'est le distributeur A24 là, qui est à la barre de plusieurs ce renouveau du genre d'horreur, si on veut. Mais on est vraiment loin des chiffres de, mettons, Get Out ou de It Follows ou de d'autres succès récents des dernières années.
Mm-hmm.
Mais je suis sûr que, tu sais, si ce film-là se retrouve sur Netflix un jour, c'est le genre de film qui va trender. C'est le genre de film que vous allez conseiller là, à vos amis qui n'ont pas trop peur d'aller voir de l'horreur, tu sais, ou qui sont amateurs, tout ça. Puis pour l'anecdote, c'est ma copine qui écoute vraiment pas beaucoup de films d'horreur. T'sais, celui-là, ça y tentait de le voir après avoir vu la bande-annonce. Elle a adoré ça, tu sais. Fait que c'est quand même. Je vous dirais que c'est quand même un film qui est difficile. Là. Je recommanderais pas nécessairement de présenter ça à toute votre famille. Là, soir de réveillon, là, let's go, on se tape Midsommar. Là, ou à des enfants. Il y a quand même des scènes très très difficiles, mais c'est vraiment un film, je pense, qui peut aller chercher un public qui est peut-être pas nécessairement fan de films d'horreur. T'sais. Je pense que c'est vraiment un film qui réussit à captiver n'importe quel spectateur attentif.
Ouais. Puis c'est drôle. Vraiment. Ouais. juste, je vais finir sur ce point-là. Là. Moi, j'ai comme ri aux éclats, genre, 15 fois dans le film. En
tout cas. C'est un peu le genre de même rire devant Film d'horreur, un peu comme devant Mother, tu sais, qui est super ouais, trop, le Mother, ouais. Tu sais. Une espèce de film d'horreur weird d'auteur, là.
Ouais. Ah, je peux voir.
Ou Requiem for a Dream, tu sais, le bout où il se fait couper le bras, là, ça, c'est
drôle.
Mais
Rémi Mother, c'est quand même très, très drôle. Ça devient tellement intense. Ou, tu sais, Suspiria, là, le remake de Guadagnino, là. Je m'excuse, mais c'est hilarant, ce film-là, là, à certains moments. Là, ça devient...
Mais c'est ça, mais effectivement, mais c'est pour briser la tension, souvent. Ouais, c'est ça qui fait... Parce que, tu sais, comme une comédie... c'est que ça désamorce l'effet comique du simple fait que ça s'affiche comme une comédie d'une certaine façon. T'sais, c'est comme, ah, tu vas voir, tu sais, c'est comme, je vais te conter une blague, puis tu comptes ta blague. T'sais, c'est comme, juste de dire, je vais te conter une blague, tu viens de désamorcer ta blague un peu, tu sais. Puis, mais tu vas voir, fait tellement pas ça, tu sais. Il t'amène dans des zones super oppressantes, puis à un moment donné, il y a comme un élément comique, que ça soit visuel ou autre, là, tu sais. Puis, tu désamorces la tension complètement avec ça. Puis, c'est ça qui fait que les rires sont doublement francs, sont plus francs, tu sais. Fait que, en tout cas. Mais oui, Midsommar, c'est un bon pouce en l'air, là, je t'avoue. Je suis très, très enthousiaste. Malgré le fait que c'est pas un film intelligent au niveau scénaristique. Ben, c'est pas si intelligent que ça, mais c'est tellement bien fait, puis ça c'est tellement où ça s'en va, comme t'as dit, il est tellement coquille Ari Aster quand il fait ce film-là, comme je disais, c'est kubrickien, il y a quelque chose de checkez-moi filmé, là, puis des fois ça gosse, mais on dirait que là, vu qu'il y a de l'autodérision, puis qu'il y a de l'humour, puis que les scènes qui sont censées être épeurantes ou oppressantes le sont vraiment, pff, on dirait que j'y pardonne tous ces excès, là, je suis comme, alright, c'est bon, c'est juste du gros cinéma qui brasse, puis c'est le fun, fait que, ouais, Midsommar.
Midsommar, c'est juste du gros cinéma qui brasse, puis c'est le fun. Pascal Plante, 2019.
Bon. Avant qu'on rappe, j'ai vraiment pas le choix, là. Mais Benjamin Bourbonnet, qui nous écoute, salut Benjamin, il vient de m'écrire sur Facebook. J'espère que tu vas parler de Alien Crystal Palace. J'en ai pas parlé, mais je vous dirais juste comme, là, le podcast va finir, ouvrez YouTube, puis regardez ça, Alien Crystal Palace. C'est bon. Un nanar qui a été présenté, un nanar d'aujourd'hui, là, pas un vieux film, de Ariel Dombal, qui est comme une muse française, comédienne, qui a genre 70 ans, full chirurgie plastique, qui a l'air d'en avoir 50. Là. puis c'est comme un trip d'ego là, où elle joue de temps, puis elle a réalisé, elle a produit, elle a tout fait. Puis c'est épouvantable, mais j'ai eu tellement de fun à cette projection-là. Fait que juste pour Benjamin, je fais le shout-out. Allez voir le trailer de ça, c'est Alien Crystal Palace, c'est malade. Il y a des pharaons, il y a une rockstar française déchue, il y a des cristals, puis des palaces, puis des aliens, en tout cas. Il y a plein d'affaires, là. Fait qu'allez voir ça.
J'avoue que tu m'as eu à Alien Crystal Palace.
Hey, non, mais c'était fou, cette affaire-là.
On finit-tu le podcast par la bande-annonce de Alien Crystal Palace? Est-ce qu'on change ton plan, Paul, puis on...
Non. Parfait, ça. Donc, c'était notre point de vue cette semaine. On va discuter sur l'annonce du film Alien Crystal Palace.
Wow!
Présenté au festival Fantasia.
On a gagné!
Mon nom est Paul Andriot, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Presence in the doorway. She's looking for a fake. Someone who won't be afraid to drool upon her grace. She mixes all the colors. She dances like a stone. A flash of...
Coupé.